frères et sœurs, nous voici ensemble pour écouter la voix du Maître qui transforme notre esprit, notre mentalité, la nuit en lumière, le négatif en positif. Accueillir le Seigneur, je crois que c'est vraiment le thème de ce jour. On n'a jamais fini de l'inviter. On règle tout, nous montre en main. Top, c'est fait, je suis converti. Il faut accueillir le roi des rois. Il n'a ni commencement ni fin, qu'une limite. Son amour est sans fin. Son intelligence n'a aucune limite. Son imagination n'a aucune limite. Nous sommes limités, non ? Et il faut accueillir celui qui n'a aucune limite. Eh bien, vous aurez l'éternité pour ça. Amen. Chaque jour un peu plus. Je voudrais que nous regardions dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. On ne va pas parler directement sur l'entrée à Jérusalem, mais sur l'entrée de Jésus dans une maison, plus proche de nous, votre maison, le culte. Pour moi, je crois que le culte doit être la maison de Dieu sur laquelle il faut vraiment veiller. Et je vais lire dans 2 Rois, chapitre 4, et au verset 8. C'est une histoire du prophète Élisée qui va être reçu dans une maison. Et moi, je voudrais que nous puissions voir des instructions, des leçons. Pour moi, déjà, personnellement, j'en ai besoin, et vous aussi. Comment recevoir Jésus ? Il ne s'agit pas de lever la main en disant « je l'ai reçu hein. ». Vous n'aurez pas assez de l'éternité, si je peux m'exprimer ainsi. On va le recevoir aujourd'hui. Allez, nous lisons ensemble 2 Rois 4, 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée, en voulant dire, cherches-tu un travail ? Cherches-tu une promotion ? Je ne sais pas. » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple, ça me suffit. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Ça veut dire, « Ne me donne pas de fausse joie. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit. Nous arrêtons là la lecture, parce qu'un enfant, ça continue de grandir, non, toujours. Et on va dire à cette lecture, amen. J'ai pas entendu votre amen.
Amen.
Parce qu'il y en a qui disent jamais amen. Un jour, j'ai fait une mission en Belgique, et puis j'ai été reçu chez un pasteur que j'aime beaucoup, très gentil. Et il m'a mis à dormir pour la nuit, j'avais fait 3-4 nuits, sur une planche en bois, sous un escalier en bois. Je ne pouvais pas me lever, il y avait l'escalier. Je ne pouvais pas me tourner parce qu'il y avait la planche. Puis en dessous, il y avait la planche. J'étais dans une petite prison. C'était bien. Ça me tenait réveillé pour que je prie pour la mission. Recevoir le Seigneur. Je n'en ai pas voulu. Il n'y a pas de moyen autrement. Recevoir le Seigneur. J'aime beaucoup le mot recevoir. Nous avons des traditions. On dit parfois, as-tu accepté ? As-tu accepté le... Moi, Moi, je préfère le mot biblique, le mot de l'apôtre Jean dans son évangile, à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que si je vais chez vous ce soir manger, et si vous me dites « je vous accepte », ça veut dire « vous m'acceptez », quoi. Si vous me dites « je vous reçois », c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus doux. Recevoir le Seigneur. Cette femme a accueilli l'homme de Dieu. Ce matin, je voudrais que tous ensemble nous accueillions, le Dieu des hommes, le Dieu de notre vie. Elle l'a accueilli dans un logement qui n'était pas très riche, qui n'était pas non plus pauvre, mais où il y avait le plus important. Parce que l'important pour le Seigneur, c'est qu'il ne soit pas un passager chez nous, un passant, quelqu'un qui passe comme dans la rue, mais un habitant de la maison, non ? Dans les jours faciles, les jours compliqués. Christ habite dans nos cœurs par la foi, dit Paul aux Éphésiens. Il habite dans nos cœurs, c'est un résident permanent de notre vie. Vous avez cette vérité en vous ? Le Seigneur habite en vous ? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, hâte-toi de descendre. Cette maison aujourd'hui, c'est votre maison. C'est la mienne, rue du Hamel. C'est mon cœur, c'est mon bureau. C'est l'église, c'est là où vous êtes. Là est une maison du Seigneur. C'est pourquoi le culte est important. Il ne faut pas se priver du culte. Je l'ai dit la semaine dernière, même si nous avons des activités autres dans l'église, ne passons pas 50 dimanches sans culte, parce que sous prétexte qu'on sert le Seigneur ailleurs. Ce n'est pas possible. C'est le rendez-vous du Seigneur. Un jour, une dame m'avait reçu dans sa maison pour un repas. Je ne sais plus pourquoi, j'étais seul. Et la dame n'était jamais à table avec moi. Elle était toujours en train de faire la cuisine, de laver la vaisselle, de ranger sa cuisine. Et moi, j'attendais. J'attendais qu'elle revienne. Je sentis le repas un peu vide. Il ne faut pas que ce soit comme ça chez nous. Le Seigneur est là, puis nous on pense à autre chose, on est occupé là-haut, on fait autre chose, on n'est pas là. Je trouve ça désagréable pour celui qu'on invite, non ? Regardons bien comment cette femme a accueilli Élisée le prophète. Je pense que cette maison de la Tsunamite ressemble un peu à notre vie chrétienne. D'abord, premièrement, elle a fait une chambre haute qui pour moi représente la prière. Ils ont construit une chambre pour lui, pas pour tout le monde. Il faut que Jésus soit à part, différent, au-dessus de tout. Il ne fait pas partie des copains, de la politique. Il est au-dessus de tout, non ? Ils ont fait cette chambre haute. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des murs de 4 mètres de haut. Ça veut dire qu'elle était sur la maison. Les toits étaient plats et on pouvait construire sur le toit une pièce. Donc, ils ont voulu mettre le Christ au-dessus de tout. Enfin, le prophète, au-dessus de tout. Avant tout. Il faut que notre vie spirituelle, notre vie de prière, soit au-dessus de toute chose. On ne prie pas parce qu'il nous reste un petit peu de temps. On prie parce que notre vie, c'est du temps pour Dieu. Ils ne l'ont pas mis dans la cave. Ils ne l'ont pas mis hors de la maison. Ils l'ont mis dans une pièce spéciale pour lui. Pas dans une pièce encombrée. Pas un débarras. Pas un placard. Notre vie peut être un placard. Avec des convoitises trompeuses qui nous font la guerre, qui n'arrête pas de nous harceler l'esprit, le cœur. Jésus a chassé deux fois, en 3 ans, il a chassé les marchands du temple. Il a vidé la maison de son père de tout ce qui était inutile. Nous offrons au Seigneur un cœur propre, tout à lui, isolé de l'extérieur aussi, pour fermer la porte et être avec lui seul. Tout seul face à lui. Une chambre haute avec des murs. c'est-à-dire des pierres, de la maçonnerie, pas une tente plantée sur le toit, une tente toute légère, toute provisoire, toute flottante à tous les vents et toutes les tempêtes, quelque chose de solide. Je vois bien dans la vie des gens, même des chrétiens, on cherche du solide. Études solides, santé solide, travail solide, retraite solide. Mais parfois, je vois que pour Dieu, on offre de la légèreté. On est absent, les gens me disent, j'arrive pas à me concentrer, j'ai pas le temps. On est distrait. On offre dans notre maison au Seigneur du flottant, du léger. Il faut des murs, solidité pour se protéger des vents de fausses doctrines, de supercherie, de toute puissance, être plus fort, être meilleur. Puisse protéger des flèches de découragement, des flèches de tous les événements de la vie qui nous anéantissent parfois, qui nous font mal, puis des voleurs qui percent la maison, des voleurs qui veulent prendre la solidité de notre foi, notre temps, qui veulent nous accaparer, nous occuper, nous ravager notre temps par des choses secondaires. Il faut des murs. Les murs, ce sont les vérités de la Bible. Avec ces vérités, avec les évangiles, avec les épîtres, les psaumes, je crois qu'on a une solidité pour dire non au renard qui s'élance contre nous. Quand les Juifs ont voulu rebâtir les murailles de Jérusalem, il y avait Sambala et Tobija qui se moquaient, les ennemis se moquaient en disant « Ah, ah, si un renard s'élance, il va tout renverser. » Autrement dit, ce qu'ils font, c'est pas solide. Ce qu'ils font, ça sert à rien. On démolira après lui. Mais les murailles ont résisté. Faisons des belles murailles pour être, dans notre vie chrétienne, à l'abri, face au Seigneur. Amen. Accueillir le Christ. Et puis, dans la chambre, quand même, ils ont mis un lit. Le lit du repos, évidemment, un lit, c'est pour se reposer. Du repos en Christ. Est-ce que vous vous reposez dans votre cœur? Ou est-ce que votre cœur est sans cesse agité par une soif de toujours regarder la télé, d'être toujours plus riche, une soif d'agitation, toujours on n'arrête pas de courir, il faut voir ça, il faut écouter celui-là, il faut regarder ça. Je crois que le Seigneur, il n'aime pas trop le bruit. Avec Élie, il disait, le Seigneur n'est pas dans le tonnerre, il n'est pas dans le tremblement de terre. Vous rappelez quand Jaïrus a perdu sa petite fille, Seigneur, en entrant, il a entendu des cris, des lamentations, les femmes criaient, les jouets de la flûte, tout ça. Il a mis tout le monde dehors parce qu'il veut que quand sa parole est donnée, qu'on entende. Et s'il y a du bruit, ben, ça ne va pas passer, il faut éteindre la télé, puis c'est tout. Puis il faut éteindre aussi certaines voix intérieures. Il faut du repos. Le repos de la foi. C'est un repos, la foi, non? Un confort. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. C'est du repos. Le repos du pardon des péchés. Un péché, ça écrase, ça tourmente. Et la Bible parle, dans Romains chapitre 4, du bonheur de l'homme que Dieu justifie. Ça veut dire que Dieu considère comme juste, que Dieu pardonne. Le repos de la conscience. Paul disait, je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant tout le monde. C'est beau, hein ? Une conscience reposée, tranquille. Parce qu'on sert Dieu, pas seulement avec ses doigts, on sert Dieu avec son cœur, dans son esprit. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, dit l'apôtre Jean. Si nous n'avons pas ce repos, ce lit, ce repos en Christ, si notre vie est sans cesse agitée, je crois que nous n'entendrons plus la voix du Seigneur. On entendra les bruits intérieurs. Et même Jacques, dans son épître, il dit « Nous finirons par douter. Nous serons poussés d'un côté ou d'autre, mais on va perdre la vue sur le Seigneur, du repos pour accueillir Jésus. » Vous savez, comme moi, que les choses, les objets de la terre ont le pouvoir de nous absorber tout. Ça pompe. Ils ont le pouvoir de nous fatiguer. Pierre dit dans son épître, « Soyez sobres pour pouvoir prier. » Si j'ai la tête occupée, si mon temps est occupé par des choses secondaires, banales, je n'aurai pas la force. Je vais prier, je vais dire trois mots, puis je ne serai plus, je n'aurai plus la force de prier. Il faut être sobre, ne pas trop prendre dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie, pour pouvoir prier, pour ses enfants, sa famille, pour l'Église, pour les âmes, du repos. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, il y a des inquiétudes légitimes, il y a des inquiétudes vraiment secondaires que le diable nous infiltre, nous injecte dans notre cœur. Mais Jésus dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen. C'est dans le repos, la tranquillité que sera votre salut. Qu'entend-il dans notre cœur le Seigneur? Est-ce qu'il entend un esprit de dispute? Ça, c'est fatigant, je peux vous le dire. Est-ce qu'il entend un zèle amer? On fait les choses, mais on n'est pas content, parce que l'autre ne le fait pas. Ou est-ce que le Seigneur entend en nous un esprit de conciliation? On veut concilier les choses. De miséricorde. Sans hypocrisie. L'hypocrisie, ça fatigue. Parce qu'il faut toujours avoir un masque. On étouffe sous les masques. L'hypocrite, il a un masque. Seigneur, donne-nous ce repos dans ta maison, Seigneur, afin que nous puissions t'entendre. Amen. Il faut bien une table quand même, non? La table de la communion. Je ne parle pas de la Sainte-Seine, là. Je parle de notre communion, de notre union, de notre attachement avec le Seigneur. Ça sert à quoi une table? À manger, d'abord, non? À écrire. Je pense que notre vie intérieure, c'est une table qui doit toujours être propre, déjà, hein, bien débarrassée, toutes les ordures et tout, de tout, pour recevoir une parole de Dieu chaque jour. Est-ce que c'est trop ce que je vous dis? Chaque jour, tu dresses une table en face de mes adversaires. J'ai des difficultés, j'ai eu vraiment là des chocs dans ma vie. Mais Seigneur, que me dis-tu? Seigneur, quelle est ta parole pour moi aujourd'hui? Le matin, je me réveille, je dis, Seigneur, j'attends une parole de toi aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il parle, non? Il nous parle. Et tout à coup, un verset va jaillir dans votre cœur et il va vous consoler, vous rassurer, vous attacher, vous accrocher. Jérémie disait, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Est-ce que vous dévorez toujours la parole de Dieu? Ma grand-mère me disait, allez, mange, l'appétit vient en mangeant. Vous saviez aussi? C'est pareil avec la Bible. Ceux qui ne la lisent pas, ça ne passe pas. Les miettes ne passent pas. Ceux qui la lisent ont toujours faim. Ceux qui la lisent veulent toujours la lire. Amen. Dans une ville de Chine, il y avait des persécutions. Vous savez, on a tué en Chine des millions de chrétiens. Le XXe siècle a été le plus grand siècle des persécutions. On a tué des millions. Et dans un village, pour les humilier, eh bien, la police elle a brûlé toutes les Bibles du village, tous les cantiques, devant les chrétiens qui regardaient le feu de toutes leurs Bibles. C'était terrible. Parce qu'ils ne pouvaient pas en acheter d'autres, ils n'avaient pas de Bible. Puis il y a un chrétien, il a mis la main dans le feu, il a arraché une page. Et cette page, eh bien, elle a servi à tenir l'Église pendant des années. Une page. Il devait la connaître par cœur. Ce qui est beau, c'est que cette page, c'était Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen !» Quand il lisait ça, il disait « Oui, Seigneur, ce que tu nous dis, c'est la vérité. Je dévore tes paroles. » Et puis quand on entend la parole, cet aliment magnifique, je pense qu'elle agit en nous. On ne se rend pas compte toujours. Hein. Elle agit en nous. L'Épître aux Hébreux dit que cette parole, par cette parole, Dieu fait ce qui est agréable à lui. Il le fait en nous, il nous transforme, il nous façonne, il nous rend meilleurs, il enlève notre mauvais caractère, il nous met un bon caractère, il nous donne des paroles agréables, il nous donne de l'optimisme, de la foi, de l'espérance, il nous façonne à son image. Amen. C'est par la parole. À table, il faut prendre son temps. Au début, quand j'allais à Paris, je voyais des gens manger debout, je me disais, mais, oh, ils vont être malades. Ils sont malades, mais ils vont être malades. Moi aussi, quand je vais à Paris, je mange en marchant, debout, partout. Oh, quelle vie! Mais le mieux, quand même, c'est de manger, c'est de prendre son temps, non? On ne va pas passer 5 heures à table, mais... Je crois qu'avec le Christ, la table veut dire aussi... on est en tête à tête, on écoute, on médite, on réfléchit, on écoute ce qu'il nous dit. Le péché, c'est l'apôtre qui dit ça dans... Les Hébreux, le péché nous endurcit contre la parole. Parfois, on dit, la parole, elle est dure. Non, c'est votre cœur qui s'est endurci, c'est pas pareil. Et quand on vit dans le péché, notre cœur s'endurcit, puis on trouve que la parole est dure. Mais il faut peut-être casser quelque chose en nous pour qu'on retrouve de l'appétit et qu'on puisse prendre du temps pour méditer la parole. Amen. Peut-être que nous sommes trop pressés, il faut faire attention, nous sommes trop occupés, nous sommes trop attirés par la tyrannie des loisirs, la tyrannie. Il faut être dans les loisirs. C'est terrible, la tyrannie du plaisir. Il faut être joyeux, il faut voir, il faut se promener. Oui, mais pourquoi pas mettre Dieu en premier? Cherchez d'abord la parole de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît. Amen. N'oubliez pas que dans le royaume de Dieu, vous serez à table avec Abraham et Isaac et Jacob. On va passer une partie de l'éternité assis à table. Amen. Quatrièmement, dans la pièce de la Tsunamite, un siège. Un siège pour s'asseoir. Et je crois que c'est le siège du disciple. Souvent, on entend des témoignages au baptême. J'étais levé sur les bancs des écoles du dimanche. C'est beau quand même. C'est beau parce qu'il n'y a plus de bancs. C'est beau parce que ça veut dire je me suis assis et j'ai écouté. Je pense que le siège, il représente le disciple qui s'assoit pour apprendre, pour écouter. Moïse était assis sur une pierre quand il levait les bras pour prier pendant que l'armée d'Israël combattait contre Amalek. S'asseoir. Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Vous vous rappelez la multiplication des pains? Faites-les asseoir, dit Jésus. Ils étaient 8 000, 10 000. Faites-les asseoir pour la multiplication des pains. Je vois bien d'ici une dame qui dit, non Seigneur, moi je vais t'aider, je sais faire de la cuisine, je sais faire du pain. Faites-les asseoir. Moi Seigneur, je serais capable d'aller chercher du pain chez le boulanger. Faites-les asseoir. Laissez travailler le maître. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, non? Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Parfois, on ne sait pas quoi faire, il faut s'asseoir. Dire, Seigneur, je te dépose mon fardeau, moi je ne peux pas. Mon enfant, là, je ne peux pas. Mon mari, ma femme, ça me dépasse. Je vais m'asseoir et je vais te laisser travailler. Béni soit le Seigneur. Amen. Jésus s'est assis. Jour des rameaux, il était assis sur un ânon. Il a besoin d'un... Des ânes, il a besoin de nous. Enfin, je n'ai pas dit que vous êtes des ânes, mais il a besoin de nous, il a besoin de s'asseoir aussi dans l'Église. Il a besoin d'être avec nous. Il est assis sur son trône aujourd'hui, à la droite, c'est-à-dire sur le lieu du gouvernement de tout l'univers. Il commande tout. Mais ce qui est beau dans la Bible, c'est le... Quand il dit à l'église de Laodicée, qui est une église un peu médiocre, qui parle beaucoup. Je me suis enrichi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le Seigneur dit à cette église, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est beau, hein ? Vous avez pensé à ça parfois ? Vous serez assis à côté du Seigneur. Vous serez timide ce jour-là, je suis sûr. Je vous vois d'ici. Vous serez assis avec le Seigneur. Mais l'apôtre Paul, il va encore plus loin. Il dit, nous sommes déjà assis avec le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Comment accueillir le Seigneur ? Il faut s'asseoir pour apprendre de lui, pour mieux veiller, pour mieux voir ce qu'il va faire, pour l'attendre. Pas un esprit agité, vous savez. Quand on est agité, on ne prend pas racine. Imaginez un arbre. Vous le plantez, vous le déplantez tous les jours. L'arbre, s'il pouvait vous parler, il va vous dire « ça n'a pas marché. Je ne vais pas porter de fruits, je vais finir par crever. Tu te trompes, il faut que tu me laisses en terre et que tu ne bouges pas. Et moi, je te promets, tu auras des belles pommes. » Quand il n'y a pas de racines, il n'y a pas de croissance. Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fruits. Et on s'agite en vain, le Seigneur est à l'œuvre dans l'Église. Laissons le Seigneur, suivons-le. Amen. Enfin, le chandelier. Il faut bien voir quand même dans la maison. Dieu est vraiment dans la Bible le maître des lumières. Vous ne trouvez pas ? Regardez comment il crée la lune. Je regarde toujours la lune. Et vous ? Vous savez, il faut vraiment dire aux enfants, as-tu vu la lune ? As-tu vu les nuages ? C'est important pour un enfant de regarder les nuages. Il ne faut pas qu'il soit la tête dans les nuages tout le temps. Regardez autour de lui. La lune, le soleil, les étoiles, tout ce qui est lumineux, il a créé des poissons lumineux, il a créé des vers luisants. Et puis Dieu est lumière, ça veut dire quoi Dieu est lumière ? Se montre. Il montre ce que nous sommes. Il montre tout. Il montre ce que nous serons. Il montre notre vie intérieure. Il est lumière. Je pense que dans la communion, dans la chambre avec le Seigneur, il faut vraiment qu'il y ait une lumière pour voir tout ça. Jésus disait, attention, prends garde que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres. Faire attention. On peut perdre sa lumière, on ne voit plus. Est-ce que notre flambeau nous éclaire toujours ? On a la Bible, on chante la Bible, alléluia. Est-ce qu'elle nous éclaire, la Bible ? Nous avons un flambeau qui parfois ne nous éclaire pas. Nous avons l'Évangile qui ne change rien à notre comportement vis-à-vis de notre mari ou de nos enfants, parfois. Dans le livre des Proverbes, il est parlé de la femme vertueuse à la fin, vous connaissez. Il est dit, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Bon, chez nous, c'est facile, clic, tout s'éteint. Mais à l'époque, les lampes à huile, pour ne pas qu'elles s'éteignent, il fallait les surveiller constamment. Ça veut dire que la femme, elle surveille constamment sa lampe. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde qui est tellement rempli de nouveautés, d'actualités, de plein de choses, il faut surveiller sa lampe en permanence. Sinon, on va être dans les ténèbres, dans la nuit. Et la nuit, c'est quand on ne sait plus reconnaître le loup et l'agneau. On dit tout le monde est gentil. La nuit, c'est quand on ne sait plus reconnaître le bien et le mal. La nuit, c'est quand on ne sait plus reconnaître le Christ qui est dans l'Église. Puis on dit parfois, il n'est pas là. Allume ta lampe, ma sœur, et tu verras qu'il marche dans l'Église. La nuit, c'est quand on ne sait plus reconnaître l'Église. On ne la voit plus. Et on se cogne aux autres. La nuit, c'est dangereux. On peut se heurter. Boum, on se fait du mal. Parce qu'on ne voit pas les autres. Eh bien, il est temps d'allumer le chandelier, frères et sœurs. Parce que comment allons-nous éclairer la ville si on n'est pas nous-mêmes éclairés ? C'est nous le chandelier. Vous êtes les flambeaux Vous brillez comme des flambeaux dans cette ville. Allume ta lampe, mon frère. Peut-être pour chercher au fond de ton cœur la drachme perdue. Cette pièce importante, ta vie de prière que tu aimais tellement et que tu n'as plus. Allume ta lampe. Peut-être pour retrouver au fond de ton cœur un enthousiasme que tu avais pour servir. Tu étais toujours là, le premier parti. Tu donnais. Et puis maintenant, tu calcules tout. Allume ta lampe, la lampe de ton courage, la lampe de ton oui. Au baptême, on a dit oui. Oui. Puis après, on nous demande quelque chose. Non. Allume ta lampe pour voir en toi le Seigneur. Je vais conclure, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que faut-il dire pour conclure? Entre dans ta maison, Seigneur. Amen. Comme à Jérusalem. Ne passe pas seulement le dimanche matin de 10h30 à 11h30, parce qu'il y en a qui arrivent à 10h30. Il ne faut pas passer qu'une heure par jour, par semaine. Il faut qu'il soit toujours avec nous. Ferme ta porte aussi pour être dans le repos avec lui. Dresse une table pour souper avec lui en écoutant sa parole en tête à tête. Mets-toi bien sur le siège, ta chaise, devant le Seigneur pour l'attendre, pour l'entendre, pour l'écouter, pour apprendre. Tu n'es qu'à l'école de Dieu. Allume ta lampe pour voir en toi tout ce qu'il fait. Ne sois pas défaitiste, pessimiste, critique, bloquant, auto-bloquant. Il y en a qui sont auto-bloquants, qui sont toujours bloqués pour toute chose. Mais allume ta lampe, le Seigneur vit en toi, il te fabrique quelque chose de beau à l'intérieur de toi. Voulez-vous qu'on offre au Seigneur une belle chambre aujourd'hui? Amen. Vous savez ce qui s'est passé, en fait, je vais conclure là. Vous savez ce qui s'est passé dans cette chambre du prophète Élisée? La femme était stérile ou le mari, je ne sais pas. Et puis cette femme, elle avait un mari. Oh, c'est un mot qu'on n'emploie jamais chez nous en France. Son mari est vieux. On dirait qu'il a un certain âge. Et Élisée lui a dit, au nom du Seigneur, l'an prochain, à cette même période, tu embrasseras un fils, tu auras un fils. La chambre haute, là, c'est une maison de promesses. Et vous savez la suite? Dans la vie, tout n'est pas rose. Cet enfant, il a fait une insolation. Un jour, à la moisson avec son père, puis on l'a ramené sur les genoux de sa mère. Puis il est mort sur les genoux de sa mère. C'est terrible. Voir un enfant mourir, j'en ai vu, c'est plus tragique de la vie. Et Élisée a pris l'enfant et il l'a amené dans la chambre haute. Il a prié pour lui. Et l'enfant est ressuscité. Amen. Notre chambre haute, pas parfait. Il y a des promesses qui sont données. Et Dieu agit en nous et nous donne la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.